Amen. Vous allez bien? Alors c'est les vacances, j'espère que ceux qui sont en vacances vont bien, puis ceux qui nous visitent, j'en profite, je vous salue. Puis ceux aussi qui sont de l'autre côté de leur écran, nous vous saluons, nous pensons à vous, nous prions pour vous, et nous savons que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Internet. Que Dieu vous bénisse, et je veux surtout pas oublier ceux qui travaillent, qui sont là, que Dieu vous fortifie. Amen. Amen. Je voudrais introduire mon message par un texte dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. Nous connaissons bien ce texte, 1 Corinthiens 9. Et vraiment, je voudrais le prendre à partir du verset 24 pour bien comprendre et réaliser de quoi nous parlons ce matin. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 24. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Il y a quelques années de ça, je commençais à faire du tennis. J'ai appris à jouer du tennis avec des enfants. À l'époque, j'étais animateur. Et lorsque, à cette époque-là, je m'occupais des enfants, et les enfants m'ont dit un jour, « Pierre, on veut te défier sur un terrain de tennis. » Piqué dans mon orgueil, j'ai dit oui. J'aurais peut-être dû dire non, mais j'ai dit oui. Et les enfants m'ont traîné sur le terrain de tennis. Et en effet, ils m'ont, quelque part, ils m'ont un petit peu titillé, me disant « on va te mettre la raclée, tu vas voir ». Bref, c'est les enfants. Et je me rappelle de ce jour en particulier parce qu'il m'est arrivé une blague. Alors que les enfants, en effet, m'ont pris, m'ont piqué dans mon orgueil, j'ai voulu leur montrer qui était le patron sur le terrain. Eh oui, j'ai voulu leur montrer que j'étais le patron. Et je me rappelle, on échangeait quelques balles et tout allait bien, je renvoyais quelques balles, formidable. Et puis à un moment donné, je me suis dit, allez, maintenant c'est le coup de grâce, il faut que je les achève, il faut que je leur montre vraiment qui c'est le chef. Et je me rappelle de ce moment-là parce que c'est très, vraiment marqué dans mon esprit. Je revois encore la balle arriver vers moi. Et cette balle, je me la préparais. Je me dis, je vais y mettre une patate histoire de leur faire comprendre qui est le chef là. Et je revois la balle arriver, elle arrive. Et au moment où j'arme mon tir et où je me prépare à frapper, la balle tombe sur un caillou. La balle rebondit, elle sort de mon champ. En effet, seulement moi, j'allais frapper et j'ai lancé mon geste. La balle part de l'autre côté. Et vous savez, c'est l'impression qu'on a des fois quand la balle traverse votre raquette, vous avez l'impression que vous avez la raquette trouée. J'avais cette impression-là. Et donc, je balance mon geste, je fais mon geste et la balle part, mais ma tête part avec la balle. OK ? Et seulement mon geste, lui, continue. Et je me suis fait un tour de rein. Je suis resté bloqué, la balle poursuivait sa course, moi je ne pouvais plus bouger parce que je commençais à sentir la douleur, et j'avais mes petits gamins en face qui rigolaient bien, et qui m'ont dit « Alors, c'est qui le patron ?» Et en effet, ce jour-là, je suis resté presque une semaine bloqué, mon dos bloqué, et j'ai eu beaucoup de mal à assurer mon rôle d'animateur. Alors je vous laisse imaginer, les gamins ne vous laissent pas de répit, mais et vous devez courir après eux avec un mal de dos. Et du coup, je m'en souviens très bien. J'ai beaucoup souffert. Merci Seigneur, Dieu n'a pas permis que l'épreuve dure trop longtemps. Mais en tout cas, ça reste marqué au fond de moi. Cela dit, et ce matin, vous l'avez vu, ce dont j'aimerais vous parler, ce n'est pas tant de frapper la balle. Mais Paul, dans ce texte que nous avons lu, parle de frapper. Et je vais me permettre de juste revenir sur le texte, parce qu'il est pertinent pour nous ce matin de comprendre dans quel contexte nous parle Paul. Quand on reprend le texte en lui-même, et nous le prendrons cette fois-ci à partir du verset 26, « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, mais lisez bien, je frappe, non pas comme battant l'air. Je frappe, non pas comme battre en l'air. Et ça a retenu vraiment mon attention. Lorsque j'étudiais ce texte, j'ai voulu comprendre pourquoi Paul nous parlait de cela, pourquoi déjà Paul parle de frapper. Paul qui vraiment, et sans doute, et on peut le lire dans ses écrits, nous appelle à cette douceur, nous appelle à être des gens qui sont spirituels. Paul qui, peut-être par le passé, et en la personne de Saul de Tarse, se disait lui-même violent, a été vraiment changé. Mais le détail, pour moi, ne m'a pas interpellé à ce niveau-là, mais plutôt dans la signification qui se cache derrière le mot « frapper ». Parce que lorsqu'on prend le texte en grec, et lorsqu'on réfléchit ou on regarde un peu plus précisément ce que Paul a voulu dire, lorsqu'il emploie le mot « frapper », cela fait référence à un mot grec, et si on va un peu plus loin dans la réflexion, c'est le mot « pux ». Alors ce mot peut-être ne vous dira rien, mais dans la signification que Paul a voulu donner, c'est celle d'un combat au poing. Ce n'est pas celle d'une lutte, comme on pourrait y penser. Ce n'est pas celle d'un corps à corps où on essaie de se saisir mutuellement, mais réellement d'un combat, comme celui de la boxe, et je me suis permis cette image, celui d'un combat au poing, où on s'affronte à distance au travers des poings. Et finalement, ce à quoi Paul fait référence, c'est en effet la boxe antique, qu'on appelait à l'époque le pugilat. Une boxe qui était considérée comme extrêmement violente, puisqu'il y avait très peu de règles, puisque les combats devaient aller jusqu'au chaos, ou jusqu'à ce que l'un des deux décide d'abandonner. Combat qui pouvait être d'une violence extrême, parce que les adversaires se préparaient. Ce n'était pas forcément un combat à main nue, comme on peut l'entendre, mais les adversaires se préparaient les mains, se préparaient les articulations en se revêtant de lanières de cuir. Et lorsqu'ils partaient et s'affrontaient, finalement, l'objectif, c'était de faire le plus mal possible, de telle façon à remporter le plus rapidement le combat. Voilà le contexte dans lequel Paul nous appelle à frapper. Ce à quoi Paul fait référence, c'est ça. C'est un combat, c'est une lutte avec nos poings. Alors nous saisissons la nuance, nous comprenons bien qu'il s'agit d'une image spirituelle qui fait référence à nos propres combats en tant que chrétiens. Combats qui peuvent être ô combien difficiles, combats qui peuvent être ô combien éprouvants, combats qui par moments nous atteignent dans notre chair, combats qui par moments nous atteignent dans notre foi. Tant et si bien que Paul en parle de nombreuses fois dans les Écritures. Il en parle de nombreuses fois à Timothée. On va mettre la diapo suivante. Mais il en parle aussi dans un texte magnifique de Timothée, chapitre 4, verset 7, où il dit « J'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Combat qui, par moments, est en lien aussi aux épreuves que nous rencontrons. Et cela, c'est le texte suivant. Lorsque dans Hébreux, chapitre 10, au verset 32, il parle aux Hébreux, il leur rappelle, souvenez-vous de ces premiers jours, où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Oui, ce n'est pas un combat facile. Le combat spirituel qui est le nôtre est un combat qui peut nous atteindre profondément dans notre chair, mais pas que. C'est parfois le combat que nous rencontrons au travers d'une forme de persécution. Et là, nous avons la suite dans les textes. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 12, nous trouvons ça au travers même de la prière, où il nous est parlé de Paphras qui était des vôtres et qui vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que si l'église de Bastille avance, c'est parce qu'il y a un département intercession qui prie, qui se tient devant Dieu et qui intercède et qui vient dans le combat. Et je rends grâce pour tous ces frères et ces sœurs qui se tiennent dans la prière, qui se tiennent par moments à genoux, qui crient vers Dieu et qui demandent sa grâce et sa bénédiction. C'est un combat. C'est une lutte. Et merci pour ceux qui se lèvent et qui prient et qui servent dans ce département d'intercession. Puis finalement, nous avons Romains chapitre 7, verset 23, où il nous y dit « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » Et là, en effet, nous comprenons tous de quel combat il s'agit. C'est celui de la tentation. Combat qui prend place et qui peut prendre place à plusieurs, dans plusieurs domaines de nos vies. On pense forcément à Jésus pendant les 40 jours de jeûne et prière qui a dû combattre l'ennemi. Et il l'a combattu de la plus belle des manières, puisqu'il nous est dit que Jésus répondait par la parole et confrontait l'adversaire dans ce qu'il a avancé comme argument. Et nous savons que Jésus est sorti vainqueur de ce combat. Alors, dans tous ces combats, nous devons nous rendre compte que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes vainqueurs. Parce que c'est lui qui nous fortifie, parce que c'est lui qui nous donne d'être vainqueurs, en effet. Et si nous sommes debout, c'est parce que lui le veut, parce que lui nous soutient, parce que lui est à nos côtés. Et c'est une des plus belles bénédictions, parce que dans le combat spirituel, il est avec nous. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que le Saint-Esprit, que Jésus-Christ soit là avec vous, dans quel que soit le combat qui vous concerne, que ce soit face à la persécution, que ce soit dans la souffrance, que ce soit dans le combat, dans la prière, que l'Esprit de Dieu soit sur vous, pour vous donner d'être vainqueur. Maintenant, allons plus loin. Parce que Paul n'en reste pas au fait de frapper. Les choses n'en restent pas là, parce que Paul va beaucoup plus loin. Il mentionne et il rajoute une chose, « Certes, je frappe, non pas comme battant l'air. » Et cette affirmation de Paul m'a interpellé à bien des égards. Parce que si Paul en parle, c'est qu'il y a une bonne raison. Si Paul décrit le fait que par moment, eh bien, on peut se positionner comme un combattant, quelqu'un qui frappe, mais qui a priori frappe mal. Au point qu'il décrit ça comme battre de l'air. Si je prends la chose telle qu'elle, et si je réalise ce que Paul est en train de me dire, c'est que par moment, dans nos combats, parfois, eh bien, nous nous sommes et nous nous trompons, au point d'être, comme Paul le décrit, comme battant l'air. Et vous savez, personnellement, j'étais interpellé que Paul le mentionne, et je me suis dit, mais pourquoi tu le mentionnes ? Pourquoi tu nous en parles, Paul ? Pourquoi tu nous amènes à réfléchir là-dessus ? Et finalement, j'ai trouvé plusieurs explications à cela. Et je trouve tellement pertinent que l'Église comprenne que par moments, il y a des combats. Peut-être dans nos cœurs et dans nos vies, dans ce qui nous est personnel, nous menons des combats, mais qui sont comme Paul le décrit. Nous frappons, mais nous battons l'air. Et il y a un réel danger à battre l'air. Il y a un réel danger spirituellement pour nous de battre l'air. Je vais en signifier trois. Permettez-moi juste de décrire un aspect. Nous combattons, nous luttons spirituellement et nous ne voyons rien. Alors par moments, c'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu parce qu'il nous faut être patient. Mais admettons que par moments, ce n'est pas la patience, mais c'est notre égarement. Et ne voyant pas arriver les choses, la première chose qui nous arrive, c'est le découragement. On est découragé. On prie, on se tient devant Dieu, on frappe, et puis rien. Et vous savez, le sentiment de découragement nous gagne très vite. Peut-être un autre aspect que je pourrais souligner, c'est si nous pouvons être découragés, ce qui suit derrière, c'est la fatigue. On combat, on lutte, on s'investit, parce qu'il n'est pas question dans le combat spirituel d'y aller de façon légère. Lorsque nous nous tenons devant la face de Dieu, lorsque nous nous tenons dans sa présence, que nous cherchons sa face, que nous combattons et que nous luttons, que nous frappons, il est question d'un investissement qui peut nous coûter, qui peut même nous amener à être fatigués. Et peut-être pour certains qui ont mené des combats durs et difficiles, ils savent de quoi je parle. Ils savent combien par moment le combat peut être lourd et difficile. En fonction de ce, vis-à-vis de quoi nous, en fonction de ce qui est en face de nous, ce que nous affrontons, les luttes peuvent nous épuiser. Et puis, la troisième chose, et ce n'est pas la moindre, et cela fait référence au contexte que Paul nous a donné par rapport au fait de frapper. Vous savez, la boxe, c'est un sport qui, selon moi, ne pardonne pas. C'est un sport qui, demande une attention particulière, qui demande à être très vif, très rapide. Et par moments, j'ai vu des sportifs, malheureusement pour eux, comme Paul l'indique, battre l'air, frapper à côté. Mais vous savez, ça nous met dans une position de fragilité. Parce que par moments, nous nous dévoilons, par moments, lorsque nous portons un coup, nous nous mettons dans une situation délicate, au point que l'ennemi peut en profiter. Et c'est ce qui se passe. Si un coup est mal ajusté et mal porté, ça devient une occasion pour l'adversaire d'asséner un coup qui, lui, sera gagnant. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous battons l'air, eh bien, nous offrons aussi une possibilité à l'adversaire de nous frapper. Alors, certes, ça ne va pas être un coup comme on l'entend, mais réfléchissez à ce que nous vivons lorsque nous vivons la frustration, lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu, que nous prions, que le découragement est là, que la fatigue est là. Et vous savez, il y a tout un tas de raisonnements qui peuvent germer dans nos cœurs. Des raisonnements qui peuvent être terribles, du genre « mais Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas ». On peut bien même en venir à dire « Seigneur, je vais me rebeller contre toi, Seigneur ». Parce que j'ai prié, parce que je me suis tenu devant toi, parce que j'ai fait ce qu'il me semblait bon de faire, Seigneur. Pourquoi rien n'arrive ? Vous savez que l'ennemi peut se servir de ça dans nos vies. Et certes, ce n'est pas le coup qu'on attend, mais c'est le coup subtil de l'adversaire qui vient nous tacler lorsque peut-être, dans notre incompréhension, nous nous questionnons et disons à Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi tu ne réponds pas à mes prières ? Pourquoi, alors que j'ai combattu, j'ai lutté ? Et peut-être même comme Paul, on pourrait dire, mais Seigneur, j'ai tenu ferme, j'ai combattu le bon combat de la foi. Pourquoi, Seigneur ? Peut-être la question qu'il faudrait se poser au fond de notre cœur, question que nous ne posons pas forcément toujours, c'est est-ce que, Seigneur, je n'ai pas combattu en vain ? Est-ce que je n'ai pas frappé de l'air ? J'ai la conviction, mes frères et sœurs, que Dieu, par moments, et en particulier dans la prière, peut nous appeler à combattre plusieurs années. J'ai la conviction dans mon cœur que par moments, le Seigneur peut nous dire simplement, mais viens mon enfant, viens me combattre. Et j'ai cette certitude que pour certains, vous menez des combats depuis des années dans la prière, des combats depuis des années dans l'intercession. Et je suis convaincu que cela peut être aussi le plan de Dieu. Mais parfois aussi, nous combattons, mais nous frappons de l'air. Et nous nous épuisons, et nous nous fatiguons, et nous nous décourageons, au point d'un moment donné, laisser l'opportunité à l'adversaire de nous frapper. Lorsque j'ai lu ce texte, j'étais interpellé en effet, et dans mon esprit, et je crois que le Seigneur m'a mis ce verset à cœur, c'est le verset qu'on va afficher maintenant, c'est 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8. Nous connaissons ce texte. Et cela fait référence à l'écharpe de Paul. Vous connaissez tous ce texte. Et Paul a écrit précédemment, puisque ce texte, nous l'avons lu, il était dans 1 Corinthiens, ce texte appartient à 2 Corinthiens. Paul a mis en application ce qu'il vient de nous dire. « Oh, certes, je frappe, mais pas en battant de l'air. » Et l'histoire de Paul met en évidence ce que Paul a vécu et ce que Paul nous appelle à vivre par moment. Paul, et nous le savons, avait cette écharde. Et il l'explique plusieurs fois, en tout cas dans ce texte, il explique que j'avais cette écharde dans ma chair. Écharde qui a été source de plein de remarques, plein de commentaires, à savoir ce que cela pouvait être, si c'était dans sa santé, si c'était par rapport à un combat spirituel. Je vais vous décevoir. Je ne sais pas de quoi il parle. J'ai des idées, mais a priori, c'est resté vague exprès. Maintenant, ce dont je suis sûr, c'est ce que Paul a fait par rapport à cette écharde. Il nous est dit qu'il a prié trois fois le Seigneur afin de l'éloigner. Et quand Paul lit ça, il ne s'agit pas de prière à la va-vite ou d'un temps de prière dans la journée. J'ai prié 3 fois dans la journée histoire que le Seigneur m'en délivre. Quand Paul parle de prière, quand Paul parle de se tenir ou en tout cas de chercher la face de Dieu par rapport à ça, ce sont des périodes de temps que Paul a consacrées à prier. Ce sont des périodes de temps que Paul a consacrées à intercéder par rapport à cette écharde. C'est des périodes de temps où Paul s'est tenu devant la face de Dieu, les genoux à terre, peut-être en pleurs, en disant « Seigneur, délivre-moi de cette écharde ». Je ne peux pas imaginer Paul prendre 5 minutes en disant « Seigneur, j'ai prié ». Il y a une certitude dans mon cœur, c'est que Paul a fait ce qu'il devait faire. Et quand il dit qu'il a prié, il a réellement cherché la face de Dieu. Maintenant, ce qu'il nous est dit, c'est qu'il a prié une fois. Et a priori, rien n'est arrivé. Il a prié 2 fois. Là encore, rien ne s'est produit. Il a prié 3 fois. Et je pense que tant qu'il priait, ça voulait dire simplement que rien ne s'était passé. Et au bout de la 3e fois, en effet, rien ne s'est passé. Au point sans doute que Paul s'est questionné et a dit certainement dans son cœur, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ma prière n'aboutit pas ? Et je me mets à la place de Paul, qui était un homme remarquable, un homme dont Dieu s'est servi, un homme avec des révélations d'une profondeur étonnante, un homme avec des paroles venant de Dieu, un homme qui avait un ministère apostolique. Lorsqu'il priait pour les malades étaient guéris, et lui, par 3 fois, il prie et rien. Seigneur ! Et je me suis mis à la place de Paul, et je me suis dit à un moment donné, Paul, qu'est-ce qu'il a dû comprendre ? Comment il a dû réagir par rapport à ça ? Il a dû se dire, Seigneur, je frappe certes, mais je ne veux pas frapper comme dans l'air. Alors probablement, Paul a dû poser une autre question. Seigneur, que faut-il que je fasse, Seigneur ? Est-ce que je dois continuer à prier ? Est-ce que je dois continuer à intercéder ? Parce que ton objectif pour moi, c'est de combattre dans la prière jusqu'à ce que je voie la guérison. Ou est-ce que, Seigneur, je dois comprendre autre chose ? Et en effet, lorsque Paul va sans doute réfléchir quant à sa condition, là, le Seigneur va lui parler. Et il va lui dire cette parole. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a appliqué exactement ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26. Je ne veux pas combattre l'air. Et tant et si bien que dans la vie de Paul, il s'est attelé à chercher la face de Dieu, à chercher sa volonté, comprendre ce qui se passait pour ne pas s'épuiser dans la prière. Parce que certainement, Paul avait compris une autre réalité, tout ce que j'ai mentionné avant. Il avait compris que combattre l'air pouvait devenir dangereux pour sa vie spirituelle. Combattre l'air pouvait devenir même un obstacle à sa foi. Combattre l'air pouvait devenir à un moment donné comme une pierre d'achoppement dans sa vie, comme elle pourrait l'être dans chacun d'entre nous. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que lorsque nous combattons, ne rien voir arriver par moment dans nos vies, c'est fatigant. Lorsque nous combattons, lorsque nous frappons et nous nous tenons devant la face de Dieu et que rien ne se passe, Seigneur, ça peut déstabiliser votre foi. Alors on a besoin que le Seigneur vienne nous dire « Continue mon enfant, tu es sur la bonne voie. » Ou alors par moment le Seigneur nous dit tout autre chose. Et il nous dit « Ma grâce te suffit. Arrête de combattre. Tu t'épuises peut-être pour rien. » Alors, ce qui est pertinent dans ce passage, c'est que Paul le mentionne. Maintenant, pour nous, ce matin, comment pouvons-nous rentrer dans cette dimension où nous frappons sans pour autant battre l'air ? Et permettez-moi de partager quelques textes avec vous qui vont étayer cette réflexion parce que je prends ce conseil de l'apôtre Paul pour moi et pour ma vie et je me dis, Seigneur, je veux combattre, je veux frapper. Paul savait frapper justement et a appris à frapper justement et à savoir se remettre en question pour pouvoir frapper au plus juste, être efficace dans les combats qui sont les nôtres. peut-être par moment, on a le sentiment, ou peut-être, et ça a été mon cas, et je vais prendre mon exemple pour dire qu'à un moment donné, dans bien des combats, j'ai avancé bien en tête, sans réfléchir, sans me poser la question. Et si Dieu, peut-être ce matin, nous disait de faire un peu plus attention, et de réaliser que les combats que nous menons ne sont pas tous ceux que Dieu veut. Ouais. Les combats que nous menons ne sont pas tous ceux que Dieu veut. Alors, quatre pensées sont venues sur mon cœur que je voudrais simplement partager. La première, nous la trouvons dans Jacques chapitre 4, verset 3. Et fait le parallèle avec ce que Paul a vécu. Il nous est dit simplement, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ah, Seigneur, on demande mal. Il y a des années de ça, alors que j'allais rentrer à l'école biblique, s'est posé vraiment la question du financement de mon école biblique. Et j'ai vécu quelque chose de vraiment particulier pendant cette période-là, parce que j'étais pris dans un conflit. Celui de financer mon école biblique, ou au lieu de financer mon école biblique, monter, servir le Seigneur au milieu des adolescents en camp d'ado. Et vraiment, j'ai eu un gros combat avec ça parce que je voyais l'impératif de travailler pour gagner, pour payer mon école biblique. Et à côté de ça, je voyais l'impératif de servir au milieu des ados. Et j'ai passé un mois de juin à l'époque j'étais étudiant encore, mais j'ai passé un mois de juin à me torturer à savoir ce que je devais faire. Avec une raison valable, en me disant, Seigneur, mais il faut que je paye mon école biblique, il faut que je travaille. Et pendant le mois de juin, je me suis tenu devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me trouves un travail. Il faut que je puisse financer mes études. Et à côté de ça, presque tous les 2 à 3 jours, j'avais des amis du camp Agape qui m'appelaient et qui préparaient le camp et qui me disaient, Pierre, on a besoin d'un animateur supplémentaire, il faut que tu montes, on a besoin de toi. Et dans mon cœur, je disais, non. Faut que je finance mon école biblique. Oui. Et pendant tout le mois de juin, je me rappelle, je cherchais la face de Dieu, je disais, Seigneur, il faut que tu ouvres une porte, il faut que je travaille. C'est quand même important, c'est une certaine somme. Et vraiment, je me voyais mal être à l'école biblique et devoir travailler en plus pour financer mon école biblique. Donc je disais, Seigneur, il faut que ça fonctionne, il faut que j'ai un travail. Arrivé fin juin, pas de travail. Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Fin juin, 1er juillet, pas de travail. Et là, j'ai commencé à me dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et pendant ce temps de remise en question, j'ai commencé à prier et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec ma mère. On était dans la chambre, je revois très très bien ma mère, on discutait ensemble par rapport au travail, par rapport à mon investissement, par rapport au fait de servir. Et à un moment donné, alors que je priais, je me remettais en question, je dis à ma mère de cette façon-là, toute simple, écoute maman, je pense que si Dieu me veut vraiment là-haut, Agape, si c'est son plan, eh bien, il faut qu'une certaine personne, c'est Jean, et Jean, il faut que Jean m'appelle. Parce que Jean, je ne peux pas lui refuser ça. Et beaucoup de gens m'avaient appelé jusqu'à présent, tous sauf Jean. Et ça m'arrangeait bien. Parce que je me suis dit, avant que Jean vienne vers moi. Mais vous savez, quand Dieu a une idée derrière la tête, je dis ça pourquoi ? Parce qu'au moment où je dis à ma mère, « Maman, si Jean m'appelle, je monte à Gap. » Le téléphone sonne dans la seconde qui a suivi. Et c'est mon père qui a répondu. Et mon père, je me rappelle, il était dans une autre pièce. Il me dit, Pierre, oui papa, c'est Jean au téléphone. J'ai dit à mon père, papa, dis à Jean que j'arrive, c'est bon. Mon père a dit, Jean, même pas besoin de savoir de quoi il s'agissait. Il arrive, ok, à demain. Le lendemain, je partais à Gap. Mais vous savez, les choses n'en restent pas là parce que Dieu a un plan parfait. Il connaissait les choses importantes, connaissait ma vie, connaissait mes impératifs, à savoir le fait de financer mon école biblique. Et Dieu a permis que fin juillet, je trouve un travail qui commençait en août et qui se terminait en septembre, me permettant de financer en grande partie mon école biblique. Tout ça pour dire que par moments, on s'axe sur des champs de prière, alors que Dieu peut-être essaie de nous dire « c'est pas ce que j'attends de toi ». Et on persiste et on persévère dans des directions dans lesquelles Dieu n'est pas. Et certes, c'était une prière légitime de demander à Dieu, de lui demander de financer mes études. C'était une demande légitime de me tenir devant sa face et de dire « Seigneur, ouvre la porte pour un travail ». Seulement, le plan de Dieu était tout autre. Alors je m'exprimais dans la prière, j'étais dans la chambre haute, en train de demander à Dieu, « Seigneur, ouvre les écluses des cieux pour un travail, Seigneur, j'en ai besoin !» J'y mettais toute mon énergie, toute ma volonté, toute ma foi, pour rien. Pour rien. Ou en tout cas, oui, une chose, pour me rendre compte que ce n'était pas son plan. Alors certes, ça m'a servi à réaliser que j'étais à côté de la plaque. Et ça m'a amené à réfléchir, à prier différemment. Ça m'a amené à réfléchir, à voir et à comprendre ce que Dieu voulait. Cela dit, j'ai prié. Je me suis tenu dans sa face. J'ai combattu dans la prière. Alors que dès le départ, Dieu était en train de m'indiquer un autre chemin. Et avec le recul, j'ai eu vraiment l'impression de battre l'air. Vraiment. Parce que si j'avais vraiment posé les bonnes questions dès le départ, j'aurais pu me consacrer à la prière pour le camp, qui allait m'être beaucoup plus utile en effet. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Par moments, Dieu, et j'en suis convaincu, va appeler certains à prier pendant des années, pour des sujets, à combattre dans la prière, et peut-être pour beaucoup, c'est votre cas. Mais pour d'autres, peut-être ce matin, Dieu t'appelle à te remettre en cause, dans ta prière, de te remettre, ou en tout cas de réfléchir à ce que tu es en train de demander, pour que le Seigneur puisse aussi te montrer où il te veut réellement. C'est pas facile ce que je suis en train de dire, mais peut-être au milieu de nous, il y en a qui combattent depuis des années. Et peut-être la réflexion que je veux amener dans vos cœurs, c'est que peut-être il y a autre chose à comprendre dans notre façon d'amener, dans notre façon de prier, dans notre façon d'intercéder. Paul, au bout des 3 fois, a compris « Ma grâce te suffit ». Il n'a pas persévéré, il n'a pas continué. Et certainement que Paul est passé dans d'autres combats. De même que moi, ce jour-là, début juillet, je suis rentré dans un autre combat. J'ai cessé de travailler, ou en tout cas, j'ai cessé de prier pour un travail, parce que je savais que Dieu allait s'en occuper. Deuxième conseil, on le trouve dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et là encore, vous allez voir, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, les autorités, les principautés de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a un piège de l'adversaire, et mesurez bien ce que je suis en train de vous dire, il y a un piège de l'adversaire de mener les enfants de Dieu sur le terrain de la lutte contre la chair. Oui, alors je ne parle pas forcément de notre combat, nos combats qui nous sont intérieurs, mais dans nos familles, sur nos lieux de travail, par rapport à des situations, par rapport à des conflits, par rapport à des problèmes. Et quelque part, humainement, on est toujours tenté de réagir humainement. Face à des situations, on est toujours tenté de rentrer dedans ou de leur rentrer dedans. Et très honnêtement, ça, c'est des combats qui sont les nôtres au jour, quand nous sommes sur notre lieu de travail. Et là, la nuit nous attend, nous tend le piège, viens lutter contre la chair. Viens affronter tes amis du travail, entre guillemets, tes collègues de travail. Viens affronter ta famille. vient combattre la chair. Par la chair, forcément. Et vous savez, c'est un piège dans lequel nous rentrons par moments si vite. Parce que nous sommes en progression dans le domaine de la sainteté, on est d'accord. Parce que dans certains domaines, nous apprenons encore et encore à maîtriser notre chair. Mais en attendant par moments, mais on y va tellement gaiement. Et quand on est pris dans ce combat-là, dans cette lutte, lisez ce verset. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. On apprend, mes frères et sœurs, à lutter différemment. Et pour le chrétien, il y a un vrai défi de rentrer et de lutter spirituellement. Tellement facile par moment de rentrer dans les explications, tellement facile de rentrer dans une argumentation, tellement facile d'hausser le ton et de dire « c'est moi qui suis le chef », tellement facile par moment de s'imposer, d'écrabouiller tout le monde, excusez-moi. Mais tellement plus spirituel à un moment donné de lire ce verset et de dire « vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang ». Mes frères et sœurs, il y a des combats qui nous appartiennent et il y en a qui appartiennent à Dieu. Il y en a qui appartiennent au Seigneur. Laisse-le combattre. Laisse-le combattre. Ne rentre pas dans le jeu de l'adversaire, celui qui t'invite à frapper. Parce que là, on se retrouve dans la situation décrite précédemment, la boxe. Parce que le chrétien, il n'est pas appelé à être efficace en combattant la chair. Tant et si bien que lorsqu'il frappe, peut-être vous avez expérimenté ça. Ça vous revient en pleine tête. Moi, ça m'est arrivé. À essayer de combattre charnellement avec des armes de ce monde, j'ai perdu toute efficacité. Et même, je vais vous dire, l'ennemi s'en est servi. Vous n'avez pas à combattre, à lutter contre la chair et le sang, mais plutôt dans la prière, dans l'intercession. Je pense à nos familles, je pense à certains de nos amis, je pense à nos contacts au travail, je pense à plein de domaines dans lesquels on est tenté de venir sur le terrain de l'affrontement où Dieu nous dit « n'y touche pas, n'y touche pas ». Troisième conseil, et c'est Paul qui le donne dans ce texte. Vous connaissez, on l'a lu ensemble, et le texte dit simplement ceci au verset 25, juste avant le verset 26. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et j'ai rajouté de discipline. » On a besoin de se préparer au combat spirituel. Paul le dit, alors qu'il est en face et qu'il exprime l'idée de combattre et de frapper, Paul encadre son texte par deux fois de la nécessité d'être prêt au combat spirituel. Alors, il ne s'agit pas de se préparer physiquement, on l'a bien compris. Il y a une image spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, c'est que lorsque nous sommes appelés à frapper, lorsque nous allons et nous sommes appelés à combattre, il faut être prêt. Vous savez, il y a ce texte particulier dans Actes chapitre 19, verset 14. On connaît bien ce texte, c'est les fils de Sévas. Et ces jeunes garçons, en tout cas je pense qu'ils étaient jeunes, se sont lancés dans une entreprise un peu particulière, dans un combat particulier. La Bible nous dit qu'ils sont allés prier pour quelqu'un qui était animé d'un esprit impur. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsqu'ils vont affronter cet esprit impur, ils vont prier au nom de Jésus que Paul prêche. Ok. L'esprit malin répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, vous êtes qui ?» Un point tel que, quelque part, et c'est ce qui est dit dans le texte, ça s'est retourné contre eux. Il nous est dit que l'esprit les a chahutés, les a même blessés, et on revient à l'image première. On boxe, on frappe dans l'air, et on s'en récupère une. Oui. Il faut être prêt. Il y a des combats qui nécessitent que nous soyons au point, que nous soyons en phase avec Dieu, qui nécessitent une approche ou en tout cas une certaine intimité avec Dieu, qui nécessitent que dans nos cœurs, dans nos vies, nous ayons fait les démarches essentielles et nécessaires pour rentrer dans certains combats. Par moments, on rentre bille en tête dans des projets, dans des combats, dans des choses qui nécessitent une telle préparation. Beaucoup, par moments, se sont lancés dans des combats qui les ont dépassés et en ont fini détruits. Seigneur, on a besoin d'être prêts. Et Paul le dit, ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et de discipline. Il y a des combats, mes amis, qui sont perdus d'avance si on n'est pas prêt. Oh, Dieu peut combattre avec nous, certes, mais ça ne nous dégage pas de ce que nous avons besoin de faire. Et se préparer, c'est un point essentiel. Enfin, et je vais terminer là avec ça, nous frappons, non pas qu'on batte en l'air, sans l'amour. Ah, il n'a pas pris, mince. L'idée, et le texte n'a pas suivi, mais ce n'est pas grave, vous allez comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères, et que toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, et lisez bien ce qui est dit, cela ne me sert de rien. L'élément moteur dans nos vies spirituelles, celui qui prend part et place dans tous les domaines de nos vies, même dans le combat spirituel, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour que nous manifestons pour Christ, l'amour que nous manifestons pour nos frères et sœurs, l'amour qui doit prendre place dans l'Église, c'est cet amour qui est moteur. Même dans le combat spirituel. Je pense à un texte de Paul qui dit simplement, je l'ai noté, je ne l'ai pas mis, mais il dit simplement, Romains chapitre 15, verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi. » Par moments, on a des mauvaises raisons de nous tenir dans des combats spirituels. Je pense à un moment donné, les frères Zébédée, Jean et son frère qui, à un moment donné, vont dire à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu veux que nous invoquions la foudre pour qu'ils viennent les... » Vous allez rentrer dans un drôle de combat. Cela dit, vous avez compris que ce n'est pas l'amour qui les motivait. Tant et si bien que Jésus va leur dire, « Mais vous savez, des fois, dans nos cœurs, nous devons vérifier les motivations profondes. Et vérifier et comprendre quelles sont les vraies motivations profondes de nos cœurs. Seigneur, que ce soit l'amour. Que ce soit l'amour. Alors je vais terminer avec ça. Et j'aimerais peut-être qu'on prenne un temps très rapide ce matin. Parce que peut-être ce matin, beaucoup sont dans la situation où vous combattez depuis des années. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est qu'il y ait des réponses. Parce que mon désir, ce n'est pas que vous battiez l'air. Mais mon fardeau sur mon cœur, c'est que des frères et sœurs sortent de ce lieu avec des réponses quant à ce qu'ils doivent faire. Peut-être qu'il y aura des réponses à l'image que celle que Paul a reçue, à savoir, ma grâce te suffit. Peut-être ce matin, il y aura des encouragements à persévérer dans la prière parce que le combat et le jeu en vaut la chandelle, l'intercession est là, le combat est nécessaire et qu'il faut aller au bout de ce combat. Toujours est-il que ce matin, je voudrais que personne ne sorte de ce lieu avec le sentiment qu'il bat l'air, qu'il ait des réponses à ses interrogations, que peut-être le Saint-Esprit ouvre les yeux des cœurs, peut-être que le Saint-Esprit aussi, et je suis convaincu de cela, il y a un don tellement précieux du discernement. Seigneur, aide-moi à discerner quel est mon combat. Aide-moi à discerner où je dois combattre et comment je dois combattre. De peur d'un moment de me retrouver dans la situation où je frappe, mais je bats de l'air. Et on l'a vu, c'est tragique. Parce qu'on peut finir découragé, parce qu'on peut finir complètement anéanti, sans force d'un combat spirituel. au point même de devenir à un moment donné une cible tellement facile pour l'adversaire. Alors que ce matin, le Saint-Esprit parle au milieu de nous, qu'il révèle, qu'il montre, qu'il indique, qu'il confirme, qu'il dirige, qu'il conduise, qu'il renforce dans des positions, qu'il parle, point de dire que ce combat, j'ai déjà entendu ta prière. Il y a un mot que le Seigneur va dire à Cornelius, à Corneille, fonction des versions. Et il est dit ceci à cet homme, l'Éternel a entendu et a vu tes prières. Vous savez, par moments, on continue à intercéder dans des domaines où Dieu a déjà répondu. Alors que le Seigneur nous montre ce matin. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble, on va prier.